L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes encore une fois à ce moment devant de toi pour venir écouter ta parole. Seigneur, merci parce que tu as prévu la parole de tout chacun cet après-midi. Tu veux encore nous changer, tu veux nous transformer, tu veux nous édifier cet après-midi, tu veux nous amener dans une autre et nouvelle dimension. Seigneur, nous te disons merci. Nous prions, Père, que tu ouvres nos oreilles et que nos cœurs soient disponibles pour écouter ta parole et recevoir cette bonne parole. Je suis en train de prier pour ton serviteur que toi-même tu as choisi pendant toute cette semaine. Il a encore besoin de toi cet après-midi. Il est comme un simple instrument, Seigneur, que toi-même tu veux utiliser. Lorsque, Seigneur Jésus, tu le fasses pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.
Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ce vendredi qu'il nous offre, afin que nous puissions encore nous retrouver pour continuer avec notre thème que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de nous entretenir autour des thèmes intitulés pour une Église vivante et prospère. Et nous sommes en train d'attirer l'attention particulièrement sur la responsabilité du disciple pour la construction d'une Église vivante et stable. La responsabilité du disciple pour une Église vivante et stable. Hier jeudi, nous avons essayé de nous entretenir sur le portrait ou l'image de l'Église vivante et stable. Comment est l'image d'une Église vivante et stable? Dans notre intervention, nous avons regardé l'Église primitive, telle que nous le décrit le texte des Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous avions commencé la lecture au verset 32 jusqu'au verset 37. Dans l'essentiel des choses sur lesquelles nous nous sommes entretenus hier, nous avons compris que l'Église primitive, dans son portrait d'une Église vivante et stable, une communauté de personnes transformées, une communauté de personnes conduites par le Saint-Esprit de Dieu, la première qualité que nous avons retrouvée dans cette Église, c'est qu'elle était caractérisée par l'unité parfaite des cœurs et d'esprit. Et dans d'autres versions, on dit l'unité des cœurs et de l'âme. Et à travers cette réalité, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons compris que le cœur étant le siège des sentiments et des émotions, et l'esprit étant le siège des raisonnements et de la mémoire, cette qualité nous a amené à comprendre que l'Église primitive, elle était constituée de membres qui étaient unis dans leur manière de réagir aux réalités de la vie et en même temps dans leur manière de concevoir les réalités, de concevoir les choses. Ça veut dire que le fait que nous soyons unis comme des membres dans une communauté, si nous sommes déjà tous transformés, le Saint-Esprit qui habite en nous, il est le même. Et c'est pour cela que dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, nous avons une même vision. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le même esprit que nous avons reçu de la part de Dieu. La deuxième qualité que nous avons découverte de cette communauté, c'est que les membres de cette communauté, ils mettaient tout en commun. Ils mettais tout à commun, à tel point que personne ne pouvait dire que ça, ça lui appartenait et ça, ça ne lui appartenait pas. Ils avaient tout à commun. Le texte biblique nous a dit, ils vendaient même leurs biens et ils amenaient ce qui était revenu de ces biens-là, ils les mettaient aux pieds des apôtres. Mettre tout à commun. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que comme enfants de Dieu, nous devons comprendre que si le Seigneur te bénit, il ne te bénit pas pour toi-même, mais il te bénit afin que toute la communauté soit bénie à travers toi. C'est pour cela que ce que tu as, tu ne l'as pas parce que tu es spécial. Tu l'as parce que tu as reçu la grâce de Dieu et tu es un étendard de Dieu afin d'édifier toute la communauté. La troisième chose que nous avons découvert, nous avons trouvé que cette communauté annonçait la résurrection de Jésus-Christ avec puissance. La communication de cette communauté, ou alors la passion que cette communauté avait dans sa communication, c'était l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Et la question que nous étions en train de nous poser, c'était de dire, qui annonçons-nous dans nos paroles? Qui communiquons-nous dans nos paroles? Et ils annonçaient avec puissance la résurrection de Jésus. Le message était connu. Le message pour ce bien-aimé, transformé membre de l'Église, c'était clair et c'était la résurrection de Jésus-Christ. Et la dernière chose que nous avons trouvée chez eux, c'est que non seulement ils mettaient leurs biens à commun, mais en même temps, ils partageaient leurs biens, chacun selon ses besoins. On pouvait regarder et voir qui a besoin de ceci. Personne ne pouvait être stable de prendre une grande partie lui seul ou d'avoir de bien à lui seul, mais on regardait le besoin de chacun et on pouvait partager selon le besoin de chacun. Bien-aimés, nous avons dit que cet exercice, pour qu'elle soit une réalité dans notre vie aujourd'hui ou dans la vie de l'Église, nous n'avons pas besoin de faire des miracles. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de biens pour commencer à partager. Non. Nous avons besoin seulement aujourd'hui, comme communauté des enfants de Dieu, nous avons besoin de faire ce qui est à notre portée. C'est pour cela que nous avons dit, si tu as construit une bonne maison, permets seulement que cette maison soit une maison d'accueil pour les autres. Que les autres aussi viennent, qu'ils voient ce que tu es en train de vivre dans ta maison. Si le Seigneur te bénit, partage la bénédiction avec l'autre. Faites le bien à celui qui est à côté de toi. Et moi, je suis en train de nous dire, le principe qui devait nous caractériser, c'était celui-ci. Le principe qui doit caractériser tout enfant de Dieu serait de dire, j'ai été créé pour rendre heureux et non pour recevoir le bonheur des autres. J'ai été créé afin que ceux qui sont à côté de moi soient heureux. Et si chacun de nous, comme membre de l'Église, se mettait à chercher le bonheur de l'autre, ça permettrait que nous puissions vivre une communauté vivante et stable. Parce qu'en même temps que tu cherches le bonheur de l'autre, lui-même cherche ton bonheur. Et c'est pour cela que vous verrez, parmi nous, il n'y aurait pas de personnes qui sont dans le besoin. Parce que pendant que toi, tu es en train de répondre aux besoins de l'autre, lui-même est en train de vouloir répondre à ton besoin. Il y a des frères qui sont nés ensemble. Et leur papa leur a créé une possibilité pour eux d'avoir chaque mois de recettes et de manière égale. Alors, le grand frère s'est marié, il a eu des enfants pendant que le petit frère n'avait pas d'enfants, il n'avait pas encore de famille. Mais dans l'entretemps, parce que c'était déjà défini ce qu'il recevait, il recevait toujours la même somme. Alors le petit frère a commencé à se dire, moi je suis célibataire, mais mon grand frère est déjà marié, il a des enfants, sûrement il doit avoir plus de besoins que moi, parce que la réalité c'est qu'il a plus de bouches à nourrir que moi. Alors, le petit frère a commencé à dire, il faut que je donne quelque chose à mon grand frère, mais il ne faut pas qu'il se rende compte que c'est moi qui est en train de le faire. Alors, il savait toujours là où le grand frère déposait son argent. Et chaque fois qu'il arrive, il va prendre de sa somme, il vient déposer là-bas. Le grand frère, en revenant, il trouve que la somme qu'il avait mis, il y a plus que ce qu'il avait mis. Il ne comprenait pas, mais il disait, bon, je ne sais pas comment ça se passe comme ça. Mais dans l'entretemps aussi, le grand frère est en train de réfléchir que le petit frère, lui qui est encore célibataire, il n'est pas encore marié, sûrement il doit avoir beaucoup de besoins parce qu'il doit se préparer à la vie. D'ailleurs, il faut qu'il se marie, il faut qu'il fasse aussi d'autres choses. Il serait lui qui recevrait plus que moi parce qu'il a encore beaucoup de besoins et beaucoup de soucis devant lui. Lui-même, quand il quittait la banque, sachant là où le petit frère gardait son argent, il prenait de son argent, il va déposer là-bas, mais en même temps, il ne voulait pas que le petit frère se rende compte que c'est lui qui le faisait. Et la réalité, c'est que chacun de ces deux frères, quand il arrive, chacun, bien qu'il a pris de son argent, il l'a donné à l'autre, mais il y avait toujours de l'argent là-bas. Et cet exemple nous amène à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que si nous sommes dans une communauté où chacun est en train de réfléchir sur le bonheur de l'autre, rien ne va manquer et nous ne manquerons de rien parce que pendant que tu réfléchis sur le bonheur de l'autre, l'autre en même temps réfléchit sur ton bonheur. Et c'est ce qui ferait la joie de vivre ensemble comme enfants de Dieu. Et quand l'Église est construite sur un principe comme celui-là, cette Église est forte et vivante. Parce que dans l'entretemps, vous voyez quelqu'un qui est en souffrance et vous pouvez lui venir en aide. Et en même temps, quand vous pouvez annoncer à cette personne la bonne nouvelle, ça passe. Il comprendra bien parce que la bonne nouvelle n'est pas seulement restée sur les lèvres, mais cette bonne nouvelle est allée jusque dans les actions. Si l'Église aujourd'hui a des difficultés d'évangéliser, c'est parce que plusieurs fois, nous prêchons des choses et nous disons des choses, mais quand les gens nous regardent, ils ne voient pas l'essentiel de ce que nous sommes en train de dire par nos actions. La bonne manière d'évangéliser, la bonne manière d'appeler les autres vers le Seigneur, serait que nous puissions le faire par les actes. Alléluia. Cet après-midi, nous voulons parler des thèmes intitulés « L'unité dans le service à rendre à l'Église ». L'unité dans le service à rendre à l'Église. C'est ça le thème sur lequel nous voulons nous entretenir maintenant pour cet après-midi. Je vais vous inviter de lire avec moi deux textes bibliques. Le premier texte que nous allons lire, nous le lisons en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 23 jusqu'à 31. Et le deuxième texte, nous allons le lire en 1 Corinthiens 12, le verset 12 jusqu'au verset 31 aussi. Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 23 jusqu'au verset 31, je conduis la lecture dans le nom de Jésus. Je conduis la lecture dans le nom de Jésus. Voilà. Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. En les écoutant, puis tous unanimes s'adressèrent à Dieu à ces termes. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as mis par l'Esprit Saint ces paroles dans la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi donc ces grondements des nations et ces vaines entreprises de peuples? Le roi de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son roi. Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, contre Jésus, ton saint serviteur, que tu avais oint. Ils ont ainsi réalisé tous les desseins que la main et la volonté avaient établi. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leur menace et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. Étends donc ta main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de cette prière, le local où il se trouvait réuni fit ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Amen. Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 jusqu'à 31, je conduis la lecture dans le nom de Jésus. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas de seul membre, mais plusieurs. Sur les pieds disaient, comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps. Cesserait-il pour autant d'appartenir au corps? Si l'oreille disait, comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps. Cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps? Si le corps entier était l'œil, où serait lui? Si tout œil, où serait l'odorat? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous tenons pour les moins honorables, c'est en eux que nous faisons plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient en commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres font quoi? Souffrent ou partagent la souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres font comment? Tous les membres sont glorifiés ou partagent sa joie. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ce que Dieu a disposé dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les hommes chargés de l'enseignement, vient ensuite les dons de miracles, puis de guérisons, d'assistance, de direction et les dons de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? 31. Ayez pour ambition les dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Parole du Seigneur. Alléluia! L'unité dans le service à rendre à l'Église. Je vais commencer ce message en disant, bien-aimé dans le Seigneur, appartenir à l'Église, la communauté des enfants de Dieu, être la personne précieuse de Dieu dans le monde, comme nous l'avons dit depuis que nous avons commencé cet enseignement, c'est une grâce que vous avez de la part de Dieu. Le fait est que Dieu, à vous regardant et quand il regarde les personnes qu'il viendra prendre, lorsqu'il revient à sa gloire, il t'aimait, tu es parmi ces gens-là. C'est une grâce que tu as de la part de Dieu. Vous savez, je l'ai déjà dit pour ceux-là qui n'ont pas commencé avec nous cet enseignement. Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ, il n'est pas membre de l'Église. Alors quand je parle de l'Église ici, je parle de la famille de toutes ces personnes qui ont déjà donné leur vie en Jésus. C'est-à-dire si quelqu'un est ici et n'a pas donné sa vie à Jésus, il est seulement en train de nous accompagner. Mais ceux qui sont à Christ, ce sont des qui font membres de l'Église. La bonne nouvelle, c'est que si tu n'es pas encore membre de l'Église, tu as encore toute la possibilité parce que tu es encore à vie au moins aujourd'hui. Être membre de l'Église, enfant de Dieu, être parmi les gens qui contribuent pour que l'œuvre de Dieu avance dans la famille de Dieu, c'est une grâce, c'est une grâce très importante. Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut dans ce monde ici. Les disciples, un jour, pendant que les gens sont en train de suivre Jésus, certaines personnes se mettent à dire, « Bon, voilà, vous dérangez beaucoup, peut-être il faut même que le maître vous dise de vous taire. » Jésus dit à ses disciples et à tous les autres, il dit, « Ces gens-là qui demandent que ceux qui me suivent puissent se taire. » Si ces gens se taisaient, je peux même commander aux pierres de me louer. Et habituellement, quand je lis ce texte, je me rappelle que servir le Seigneur, si tu as l'occasion de servir le Seigneur aujourd'hui, il faut le servir comme si tu vas mourir demain, parce que tu ne sais pas. Dieu peut te prendre cette grâce, il donne ça à quelqu'un d'autre. Tu te rends compte que même le peu qu'il te demande de faire, tu ne le fais plus. C'est une grâce d'avoir la force de servir le Seigneur. C'est une grâce d'avoir les moyens de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu peut utiliser qui il veut. Et s'il veut utiliser même les arbres, il peut même les utiliser. C'est curieux et c'est un peu bizarre que... Il y a encore des gens qui, pour aller au culte, il faut les négocier, les parents à la maison. Mais tu ne vas pas au culte aujourd'hui, il faut te négocier pour aller au culte. Si Dieu veut, il peut dire, bon, tu n'iras plus au culte. Tu voudras y aller, mais tu ne pourras pas y arriver. C'est une grâce que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Être dans une famille de Dieu et servir pour l'édification de la famille de Dieu, c'est une grâce. Mais il faut que je nous rappelle, bien aimé, que l'Église, c'est la famille la plus précieuse de Dieu sur la terre. Mais en même temps, cette Église ici, c'est la famille la plus combattue par les diables sur la terre. Ça, je l'ai déjà dit quand nous avons commencé cet enseignement. La famille la plus combattue sur la terre par les diables, c'est la famille des enfants de Dieu. Et alors, cet après-midi, je vais vous dire, ce qui fait la force de l'Église, ce qui permet que les membres de l'Église puissent continuer à avoir l'emprise ou alors le pouvoir même sur les diables, c'est l'unité. Ah, je ne sais pas si cette phrase est bien formulée. L'union des membres de l'Église, l'unité dans l'Église ou l'unité parmi les enfants de Dieu, c'est une des choses qui fait la force de l'Église et qui permet que l'Église dans le monde puisse rester inébranlable. En effet, l'Église, plutôt l'unité, constitue une base très importante pour la vie de l'Église. Et même quand les diables attaquent l'Église, la première chose qu'ils cherchent dans l'Église, c'est d'abord de détruire l'unité de l'Église et de semer la division parmi les membres. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre cette réalité. Les diables, dans sa manière de faire, quand ils trouvent l'unité, c'est une grande barrière. Et s'il veut vous détruire, il commence d'abord par semer des divisions au milieu de vous. Si le diable veut détruire ton couple, il cherchera d'abord à semer la division. Vous allez commencer, les enfants commencent à dire ceci, les parents commencent à dire autre chose, des contradictions entre les parents eux-mêmes. Si le diable réussit à construire cette division parmi vous, vous êtes partant. C'est pour cela que vous avez écouté la première église, la première qualité pour l'église primitive, c'était l'unité des cœurs et d'esprit. L'unité est très importante pour l'église et pour les enfants de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que le thème de l'unité revient plusieurs fois, comme si Dieu lui-même, il veut nous voir vivre l'unité. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 jusqu'à 11, la Bible dit « Mieux vaut des personnes qu'une seule, parce que si l'un tombe, l'autre va faire quoi ? Il va le relever. » Et ce texte montre que l'unité, là où il y a l'unité, il y a la force. Quand vous lisez le psaume 133, il dit « Il est bon et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. » Il dit « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion. » Et à la fin, il dit « C'est là que le Seigneur apporte la bénédiction. » Il y a des fois que le Seigneur, dans notre unité, il agit. La bénédiction est aussi liée à l'unité. Lorsque nous sommes unis, c'est là que le Seigneur apporte la bénédiction. Comme pour dire, c'est dans cette unité, dans cette convivialité, que le Seigneur nous propose la bénédiction. Parce qu'il nous utilise. Il utilise cette unité pour que nous soyons édifiés et que nous soyons bénis l'un l'autre. Mais encore un autre texte à Matthieu chapitre 18. J'aime beaucoup ce texte de Matthieu chapitre 18. Le chapitre 18 de Matthieu, c'est un chapitre qui parle de l'unité et qui montre que l'autre est très important pour toi. Si vous lisez ce chapitre, vous allez voir dans les différentes parties. Si vous commencez le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez trouver que Jésus parle ici, il dit qui est le plus grand dans les royaumes. Il dit, celui qui est le plus grand dans les royaumes, c'est le plus petit. Celui qui est le plus petit parmi vous, il est le plus grand dans les royaumes. Autrement dit, il ne faut pas négliger quelqu'un parce qu'il est petit. Et quand vous allez au verset 6 jusqu'au verset 9, dans ce même chapitre, on va dire, attention! Si quelqu'un fait tomber le plus petit de ceux-ci, il n'est pas digne de moi. Autrement dit, Jésus est en train de montrer que celui qui est à côté de toi, il est très important. Et j'ai toujours aimé parce que ce chapitre commence par les plus petits. Il y a des fois que dans notre communauté, si on pense qu'on est grand, on va écraser les autres. Les gens qui pensent qu'ils sont grands à l'école, ce sont des qui croient qu'il y a des gens sur qui ils doivent dominer à l'école. Si en famille vous pensez que vous êtes grand, vous avez l'impression de prendre les autres à la légère parce qu'ils paraissent être petits devant vous. Mais Jésus, dans le chapitre 18 de Matthieu, il commence par les plus petits qui doivent être protégés. Pour montrer la valeur de l'autre, quand vous lisez le verset 10 jusqu'au verset 14, on va parler là-bas de brebis, de la brebis qui a été égarée. Dit quelqu'un avait ses brebis, il avait ses 10 brebis, mais une brebis s'est égarée. Il a laissé les 9 pour aller chercher la seule brebis qui était égarée. Pour montrer que celui qui est à côté de toi, celui que le Seigneur a placé à côté de toi, il est très important. Et tu dois développer de bonnes relations avec lui. Parce qu'il est aussi un enfant de Dieu, il est aussi une créature de Dieu et tu dois apprendre à entretenir de bonnes relations avec lui. Dans le même chapitre de Matthieu 18, j'aime ce chapitre ici. Quand vous allez au verset 15 jusqu'au verset 18, on va dire ici, si tu as un problème avec ton frère, il faut d'abord aller le voir pour réparer. S'il n'accepte pas, il faut aller chercher quelqu'un qui est proche de toi. Vous essayez de le côtoyer. S'il n'accepte pas, il faut encore. Et après cela, vous pouvez maintenant abandonner. Un chapitre qui parle de soins de relations. Celui que Dieu a placé à côté de toi, même si tu as des problèmes avec lui, il faut chercher une possibilité de réparer à l'amiable. Il y a des fois que quand on est dans la même église, Mais on se retrouve au tribunal, dans la même communauté. Tous des enfants de Dieu, mais au tribunal. Les dimanches, on est à l'église. Les lundis et le mardi, on est devant les juges en train de s'accuser mutuellement parce qu'on n'a pas réussi à traiter même les choses les plus petites entre soi. Chapitre 18 ici. Alors le verset 19 et le verset 20 de ce chapitre ici. Je vous déclare encore, si des d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où deux ou trois personnes se trouvent réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. L'unité est très importante pour les enfants de Dieu que Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il dit, si vous vous mettez d'accord pour demander que je fasse quelque chose, je souligne le mot accord. Lorsque vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose à mon nom, je vais vous les donner. L'unité est très importante pour les enfants de Dieu. Et si le Seigneur nous appelle à l'unité, c'est parce que c'est à travers cette unité ici qu'il y a aussi notre édification et notre bénédiction comme enfants de Dieu. Quand vous lisez le verset 21 jusqu'au verset 22, il va dire, si l'autre a péché contre toi, il faut le pardonner, il faut vous pardonner mutuellement. Et quand vous lisez le verset 23 jusqu'au verset 35, Jésus va donner l'exemple de quelqu'un qui avait été pardonné mais qui n'a pas réussi à pardonner aux autres. Et il va le présenter comme un mauvais modèle. Alors qu'il avait été pardonné de sa dette, mais quand il a vu ses frères, il est parti et il leur a demandé son argent comme s'il n'avait pas lui-même été pardonné. Ce chapitre 18 de Matthieu nous montre que l'unité est très importante pour les enfants de Dieu et la manière de traiter les relations. Si tu es en relation avec quelqu'un, c'est une grâce. Traite bien cette relation-là. Quand nous lisons la Bible, à Marc chapitre 6, nous allons trouver Jésus qui pouvait envoyer ses disciples deux à deux pour qu'ils aillent en mission. Il envoyait ses disciples deux à deux. Mais alors quand nous lisons Jean chapitre 17, nous allons nous rendre compte que Jésus, avant de se séparer avec ses disciples, il a prié pour leur unité. Il a dit, je prie qu'ils soient un comme moi et toi, nous sommes un. Les diables connaissent ses secrets. Les jours où il réussit à semer dans l'église des divisions, là il est déjà en train de détruire cette église-là. S'il réussit à s'aimer dans notre communauté de Gomaville, les choristes commencent à dire ce qu'ils pensent, ils se contredisent avec les diacres, ils se contredisent avec les anciens, ils se contredisent avec les évangélistes. Quand il y a déjà des contradictions, le diable sait que déjà là, il est en train d'entrer. Il est en train de pénétrer cette communauté-là. C'est pour cela que la Bible dit, il faut veiller sur l'unité. Vous devriez veiller à ce que l'unité règne au milieu de vous. Ça, c'est une vérité très importante. Lorsque le diable réussit à pénétrer et à semer la division dans une communauté, c'est tout, il vous a divisé et il est en train de faire de vous ce qu'il veut maintenant. Mais si nous réussissons comme enfants de Dieu à rester unis dans l'œuvre de Dieu, avancer sur le même pas, avancer dans la même dimension des choses, avancer dans la même vision, ça nous rend fort et ça nous rend inébranlable. Et quel que soit ce que le diable fera, il trouve une communauté solidement construite parce qu'il y a l'unité et nous sommes unis dans la vision comme enfants de Dieu. L'unité est vraiment très importante. Et alors le texte que nous venons de lire en Actes des Apôtres, chapitre 4. Dans le texte ici, on parle de serviteurs de Dieu dans l'église. Il y a notamment Pierre et Jean. Ils étaient en train d'évangéliser à un certain moment, on les a pris. parce qu'on voulait les interdire d'évangéliser. Et on leur a même dit, vous ne devez plus prononcer le nom de Jésus. Qui vous a donné cette autorité? Ils sont pris, presque allés à prison, parce qu'à cette période ici, ce sont les églises qui géraient aussi des prisons. Les églises avaient des prisons. Quand vous lisez dans l'histoire, vous allez trouver que, d'ailleurs, c'est l'église qui avait le premier consul à prison. Parce que l'église gérait en même temps les temps et l'église. Ça, on ne va pas entrer. Alors Pierre et Jean, ils sont sous la menace. Ils ont annoncé Christ et ils doivent être emprisonnés. Ils doivent être interdits de prononcer le nom de Jésus parce que ce qu'ils sont en train d'enseigner n'est pas accepté. La Bible dit, lorsqu'ils ont été pris, la communauté qui est restée dans la prière en train d'intercéder en faveur de ceux-là qui étaient en difficulté. Et cette image ici, nous montre que l'Église primitive a été caractérisée par une unité qui était telle que lorsque l'autre est en difficulté, c'est moi qui ai en difficulté. Lorsqu'il y a un frère, une sœur qui est sous la menace, c'est toute la communauté qui est sous la menace. Et la communauté est restée en train de prier. Quand ils viennent rencontrer la communauté, et alors quand ils viennent raconter encore ce qui s'est passé, la communauté va continuer à s'unir dans la prière, afin que le diable ne puisse pas trouver la voie de les diviser. Et la Bible dit à la fin du verset que nous avons lu, le verset 30, il dit, à la fin de leur prière, les locaux où ils se trouvaient réunis furent ébranlés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient avec insistance la parole de Dieu. Alors qu'on les avait interdits de parler de Dieu, alors qu'on les avait interdits de prêcher, ils se sont unis devant la menace. Ils se sont unis comme une seule personne. La Bible dit, dans cette prière de communion, le Saint-Esprit a agi encore parmi eux et ils ont reçu encore plus de force pour annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Ce qui nous détruit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que plusieurs fois dans nos communautés, nous sommes plus liés, nous sommes devenus trop individualistes. À tel point qu'on n'a pas besoin, ou alors même, on n'a pas de formation les uns sur les autres. Je vous l'ai dit hier, il est possible dans nos communautés aujourd'hui que tu t'assois avec quelqu'un, et après, tu ne connais même pas son nom, tu ne connais pas il habite où. Quelqu'un s'assoit à côté de toi, après le culte, tu n'as même pas le temps de te dire bonjour. Possible que vous vous rencontriez dans une autre ville, on dit bon, il semble qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà vu où. Alors que dans l'entretemps, vous avez les certificats de baptême qui ont le nom d'une même paroisse. Vous appartenez à une même paroisse. Quand le pasteur vous appelle, il dit bon, il y a tel frère qui est parti à Kambala. Il y a aussi telle sœur qui est partie là-bas. Vous vous rencontrez là-bas. Vous appartenez à une même église locale, mais vous ne vous connaissez pas. Et ça, c'est un problème. L'église n'est pas efficace parce que nous sommes devenus trop individuels et que chacun fonctionne dans son cas. Pourtant, tel que nous pouvons le lire dans la Bible, le royaume de Dieu fonctionne dans l'unité. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont reçu un même esprit de la part de Dieu. Ils fonctionnent de la même manière. Peut-être restera-t-il de se poser encore la question de dire, est-ce que c'est le même esprit qui agit en nous? Si nous avons des contradictions et si nous n'arrivons pas à fonctionner sur le même pied d'égalité, est-ce que c'est le même esprit qui fonctionne en nous? Ou alors chacun a son esprit maintenant. Quelqu'un est malade à l'église, personne ne sera contre que quelqu'un est malade. Il y a des fois que vous voyez quelqu'un après, mais ça fait beaucoup de temps que tu n'as pas été visible. Dis, oui, j'étais même interné, je fais des semaines à l'hôpital. Mais personne n'était informé. Pourquoi? Parce que l'unité, la communion a diminué parmi les enfants de Dieu. Ce qui permet que tu es malade, tu n'appelles personne à l'église. Tu n'appelles personne à l'église parce que bon, tu te dis, je vais appeler qui? Ou alors tu te dis, bon, ça me regarde que moi. Ou alors quelqu'un est malade, il ne trouve personne qui peut venir le saluer. La communauté des enfants de Dieu est caractérisée par l'unité et la communion fraternelle qui permet que dans cette unité, dans cette communion, les diables ne puissent pas trouver la possibilité de diviser les enfants de Dieu. Et toutes les fois qu'ils tentent de le faire, ils n'auront pas la possibilité parce qu'ils sont unis et connectés au Maître. Plusieurs personnes ont abandonné de communauté parce qu'ils ont pensé que là-bas, il n'y a pas de communion. Trouverait quelqu'un qui est en train de dire, non, non, je viens de faire 2 semaines là-bas, mais personne ne me connaît, donc je suis là comme si je n'étais pas là. Que j'arrive et que je n'arrive pas, personne ne demandera si j'étais là ou si pourquoi je n'ai pas été là. Et moi, je trouve que au lieu de fonctionner dans une communauté comme ça, il faut que j'aille fonctionner ailleurs. C'est bien, mais la question que je te pose aussi, tu vas fonctionner ailleurs. Qu'est-ce que toi aussi tu faisais pour que tu te rassures que tu es en train de cultiver la communauté, la communion? Parce qu'il y a des fois que nous attendons que les autres commencent, alors que nous-mêmes, nous sommes écartés des autres. Lorsque nous parlons de l'Église, nous l'avons dit bien aimé dans le Seigneur, les bonnes choses ne commenceront pas par les autres, les bonnes choses commenceront par toi, afin que les autres puissent en profiter. Tu dois être le premier à commencer à cultiver cette unité. Et quand tu cultives cette unité, les autres aussi vont cultiver de leur côté. Et c'est ça qui fait la communion et la convivialité dans la famille des enfants de Dieu. Pourquoi l'Église sollicite notre unité dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi nous devons être unis dans l'œuvre de Dieu? Les textes que nous avons lus en 1 Corinthiens chapitre 12. Jésus donne ici l'exemple du corps. Il dit, dans l'Église, nous formons un corps. En Jésus-Christ, nous sommes les membres des corps les uns les autres. Je me propose de lire ce texte ici pour que nous comprenions bien ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens pour les inciter à l'unité. Il dit, prenons une comparaison. Le corps est un, pourtant il y a plusieurs membres. Nous sommes plusieurs membres de ce corps. Il dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps. Juifs, grecs, esclaves, hommes libres, nous avons tous été abreuvés de seul esprit. L'unité devrait être une qualité chez nous parce que nous avons été baptisés par un seul esprit. Nous appartenons à un seul Père. Et l'unité dans l'Église ne devrait plus être enseignée. Le sang devrait faire appel au sang. Le sang de Christ, le Saint-Esprit qui coule à toi, le Saint-Esprit qui marche à toi, le Saint-Esprit qui agit à toi, devrait automatiquement nous connecter aux autres qui ont le même esprit. Et si nous sommes divisés, d'où viennent les divisions? Alors il dit, le corps en effet ne se compose pas de seuls membres, mais de plusieurs membres. Et alors il pose la question. Si le pied disait, comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, cesserait-il pour autant d'appartenir au corps? Est-ce que si quelqu'un disait, comme je ne suis pas à mesure de faire ceci, comme je ne suis pas diacre, je ne fais pas partie de cette église? Le Saint-Esprit que tu as reçu a fait de toi un membre. Même si tu peux être, tu peux paraître le moins valorisé. Ça, c'est ta manière d'observer, mais devant le Seigneur, tu as une grande valeur que même les petites choses que tu réalises, le Seigneur, en les voyant, il le voit de manière très grande. C'est pour cela que le texte ici dit, même les membres les plus petits de notre corps, nous les gardons avec beaucoup, beaucoup de protection parce qu'ils sont aussi très importants. Même les parties qui seraient les moins estimées, Ce sont des parties qui sont très importantes et même que nous avons chérir. Il peut arriver qu'il y ait, si ton corps est parti, que tu dis, bon, si cette partie ici n'était pas là-bas, c'était pas grave, ça ne serait pas grave. Je continuerai à vivre. Mais pourtant, ce sont des parties très, très importantes qui ne doivent pas sortir, qui ne doivent pas quitter notre corps et que nous protégeons même très sérieusement. À travers ce texte ici que je n'ai pas le temps de lire et de revenir sur, Paul est en train d'expliquer que lorsque nous sommes déjà des enfants de Dieu, l'unité n'est plus quelque chose que nous cherchons, l'unité devient une qualité propre à nous. Nous avons l'unité comme qualité parce que nous sommes des enfants de même père, nous avons le même esprit et Paul dit, nous appartenons à un même corps. La main ne peut pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'avant que même la main touche quelque chose, l'idée commence par la tête. Le pied ne peut pas dire aux yeux, je n'ai pas besoin de toi. Parce que les yeux permettent au pied de savoir où est-ce que je vais passer et comment je vais faire. L'unité dans l'Église, c'est une qualité des enfants de Dieu et l'unité doit être considérée comme une qualité naturelle, naturelle des enfants de Dieu. Le travail du diable, par contre, c'est que nous ne puissions pas être à mesure de vivre l'unité. Je vais finir par quelques exigences pour que nos communautés vivent cette unité comme valeur naturelle. Pour que nous vivions l'unité comme une valeur naturelle, une valeur pour laquelle quand les gens disent « Comment vous êtes très unis dans votre communauté ?» Nous disons « Ça c'est naturel, personne ne peut expliquer notre unité. » Pour que cela devienne possible, voici quelques préalables, je vais donner trois et puis je vais m'arrêter. Le premier préalable, si nous voulons que l'unité soit une qualité, tu commences à saluer les gens automatiquement. Pas parce qu'on t'a dit de saluer les gens. Pas parce qu'on t'a dit d'aider les autres. Tu commences à les aider automatiquement. Si cela, nous voulons que ça soit une réalité, la première valeur que nous devons cultiver et la première chose qu'il faut avoir, c'est de nous rassurer que nous appartenons tous à un même Père. Si nous nous rassurons que nous appartenons tous à un même Père, l'unité va devenir une valeur naturelle. J'insiste sur cet élément, j'ai commencé hier. Il semble que les divisions naissent dans la communauté du fait que nous ne sommes pas unis en esprit. Nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas été connectés sur le même cep. Parce que si nous sommes connectés sur le même cep, nous prendrons la même sève et cette même sève qui est en train de passer à toi, qui est le Saint-Esprit lui-même. Celui qui te permet d'être en communion avec l'autre, ça côté ça civilise. Si dans la famille, vous appartenez à un même père, et quand je parle des pères en famille, ce n'est pas un père biologique, c'est le père spirituel. Parce que notre vie, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Si vous appartenez à un même père spirituel dans une famille, vous allez trouver qu'il y aura des valeurs qui sont naturelles à vous. Et parmi ces valeurs, c'est l'unité. Deuxième chose, si nous voulons qu'il y ait de l'unité dans la communauté des enfants de Dieu ou dans l'Église, nous devons avoir la qualité de l'amour dans la vie. Avoir l'amour comme qualité. Lorsqu'on a demandé à Jésus de tous les 10 commandements que Moïse a donnés aux fils d'Israël, quel est le plus grand? Il a dit, le plus grand de tous les commandements, c'est l'amour. Apprends à aimer ton Dieu et à aimer ton prochain. Quand je vais revenir sur cette qualité un peu avant de commencer la thématique de demain. Quand je parle de la qualité d'amour, moi je parle de la qualité d'amour à trois dimensions. Il y a l'amour de Dieu, l'amour de toi-même et l'amour des autres. Si tu as ces trois dimensions de l'amour, tu vas bien avancer dans la communauté des affaires de Dieu et tu vas te rendre compte que l'unité et la communion fraternelle devient une réalité naturelle, pas une réalité à construire à toi. Il y a des gens qui ne savent pas vivre l'unité parce qu'ils ne connaissent pas que nous appartenons tous à un même Dieu et que nous avons été créés par Dieu. Ça, c'est l'amour. L'amour envers Dieu qui définit en même temps la relation avec Dieu. Mais il y a aussi un problème de relation avec soi-même. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas quelqu'un d'autre à côté de toi. Il y a des gens qui s'aiment difficilement. Quand ils se regardent, ils disent, ah, vous voyez ce que je suis, vraiment, je devrais être autre chose. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras pas aimer l'autre. Et il y a la dimension de l'amour de l'autre. C'est une valeur que nous devons cultiver pour savoir que celui que Dieu a placé à côté de toi, il est très important. S'il n'était pas important pour toi, Dieu ne le placerait pas à côté de toi. Est-ce que tu sais, tel que nous sommes assis ici, que celui qui est à côté de toi là, Dieu sait pourquoi aujourd'hui vous êtes assis ensemble comme ça. Peut-être que hier vous n'étiez pas ensemble. Peut-être qu'avant hier vous n'étiez pas ensemble. Mais pourquoi seulement cet après-midi Dieu a décidé que vous puissiez vous mettre l'autre ici et l'autre là-bas. En revenant de la maison, vous n'aviez pas planifié ça. Mais pourquoi seulement Dieu a voulu que... Ça peut même arriver que tu es assis là où tu n'es pas habitué à t'asseoir. Pourquoi seulement tu es parti là-bas? Tu n'as pas planifié. Mais Dieu sait pourquoi tu es là-bas. Donc la question est dit, Seigneur, pourquoi je suis ici et pourquoi l'autre est là? Pourquoi je prêche aujourd'hui et pourquoi maman officie aujourd'hui? C'est Dieu qui sait pourquoi tu te retrouves dans la condition dans laquelle tu es et pourquoi le frère ou la sœur qui est à côté de toi est là. Le Seigneur sait pourquoi. C'est à toi de dire, Seigneur, apprends-moi pourquoi ce frère ici, pourquoi cette sœur ici est venue s'asseoir à côté de moi. Parce que moi, je n'ai pas planifié m'asseoir avec elle, mais tu sais pourquoi. L'amour de l'autre. La dernière chose, c'est l'humilité. L'humilité, si elle est en nous, cette humilité nous permettra d'avoir l'unité et la communion fraternelle comme une valeur naturelle. Plusieurs fois, nous ne sommes pas en unité parce que nous sommes très orgueilleux. Très orgueilleux. Quand quelqu'un veut s'approcher de toi, tu dis, bon, mais comment tu peux m'appeler? Comment tu peux m'appeler comme ça, comme si... Est-ce que nous venons des mêmes villages vraiment, tel que tu me vois là? Nous sommes quelquefois orgueilleux que... Nous n'arrivons pas à construire même les petites choses, les petites valeurs à cause de l'humilité que nous devrions construire. Nous n'arrivons pas à les construire. Tu es un enseignant quelque part et tu as un niveau très élevé. Quand les gens te disent, bon voilà, est-ce que vraiment ici vous trouvez que les chefs de travaux peuvent s'asseoir avec les assistants? Vous pouvez chercher une autre salle. Ici c'est le lieu des chefs de travaux. Et vous vous rendez compte que les petites choses comme ça peuvent nous amener à des divisions inutiles qui ne nous aident pas à avancer. Pourtant, ce que tu es aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. La grande chose qu'il faudrait apprendre, sois humble et laisse que le Seigneur conduise ta vie telle qu'il veut. Construis de bonnes relations aux côtés de toi. Tu ne sais pas d'ailleurs. Tu peux être dans une position aujourd'hui, demain, là où tu es, tu vas te retrouver en dessous. Et celui que tu passais être inférieur, le Seigneur va l'élever au-dessus de toi. C'est comme ça que le Seigneur marche avec nous. Bien-aimés, la prière de ce soir, c'est que le Seigneur nous aide afin que nous soyons unis comme enfants de Dieu, que l'unité nous caractérise. L'unité, c'est la force de l'Église. Si l'Église est construite, si l'unité et la communion fraternelle, c'est une Église vivante et stable. Quelle que soit les stratégies que le diable fera, il ne saura pas entrer et pénétrer dans cette Église. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et même les puissances de la mort, les puissances du malin, ils ne pourront pas tenir contre cette Église. Pourquoi? Parce que l'Église est appelée à l'unité et dans cette unité, nous servons le Seigneur, nous célébrons le Seigneur et nous lui rendons tout l'honneur dans la communion et dans l'unité fraternelle. Notre prière, c'est que Dieu nous aide et que chacun, à ce qui le concerne, voit comment il est en train de construire sa vie pour l'unité et le bien-être de l'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.